Donc, je m'appelle Pasteur Kenda, je suis de Hongrie, à Budapest. Je me sens un peu bizarre ce matin, parce qu'à chaque fois que je viens partager, parce que généralement c'est avant Pasteur Mikhail, et là il n'est pas là, et là je perds ma stabilité. C'est Pasteur Steve qui m'a piégé. Il y a vraiment... Merci Pasteur Mikhail, tu es là, je me sens mieux. Ouh. Il y a une unité extraordinaire dans l'esprit partout cette semaine. Chaque prédicateur qui prêchait à partir des proverbes, qui se sont sentis, et moi je me sens aussi, vous allez le croire ou non, mais vraiment c'est encourageant. Et Pasteur David Moore, on a toujours peur que le prédicateur avant vous prêche votre message. Une fois, j'étais en train de me préparer et je savais vraiment ce que je voulais. Et Pasteur Belarus se lève, fait l'intro en disant, on va aller dans 1 Samuel 30 et on va parler de la simplicité de la grâce. Et je dis waouh, et c'était exactement le même message. C'est évident quand Dieu veut enseigner quelque chose. En Proverbe 13, au verset 13 aussi, celui qui maîtrise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Père, on te demande de bénir cette pensée maintenant en ton nom. Et quand on pense au Seigneur, de penser qu'il a magnifié sa parole au-dessus de toute chose, de penser à ça, il est tellement précieux, il veut vraiment que nous le connaissions, et c'est tellement quelque chose qui nous remplit de joie de penser à ça. Il a élevé sa parole de façon tellement ultime parce qu'il veut qu'on le connaisse, il veut qu'on soit capable d'avoir communion avec lui. Ce n'est pas pour d'autres raisons, mais pour cette raison-là, il élève sa parole tellement haut, parce qu'elle est tellement précieuse. Il veut que nous la connaissions, il veut que nous le connaissions, il veut être intime avec nous, il veut que nous voyions sa nature, son cœur, son amour, et juste ce qu'il est pour nous, et qu'il ait des choses avec nous. Et ici, il est dit, celui qui méprise la parole, il est... En fait, c'est comme s'il se liait. En Jean 12, verset 47-48, « Je ne jugerai pas celui qui me juge, mais c'est la parole qui va le juger dans les derniers jours. » Et la parole a vraiment un poids éternel de gloire. Et je pensais, je frappais, et en train de demander à Dieu, « Je veux une message. » Et Dieu me ramenait ce message que j'ai partagé dimanche soir. Et je vais en parler de façon très simple. C'était vraiment incroyable de penser, celui qui méprise la parole, qu'est-ce que ça veut dire mépriser la parole? On sait qu'il y a des gens qui vont nous dire, non merci, je ne suis pas intéressé, laissez-moi tranquille, pourquoi est-ce que je veux croire à la Bible, la vérité, tout ça, peu m'importe, ça me fait peur, c'est étroit, je ne veux pas, je veux croire, être ouvert à toute chose. Mais je pensais aussi, si nous considérons un exemple, en Jérémie 32, si vous voulez bien regarder avec moi, la façon dont on peut mépriser la parole, c'est très intéressant. Nous avons le reste d'Israël, après que la plupart d'entre eux aient été emmenés ou tués, et il revient à Jérémie, et au verset 2, il dit, prie pour moi, pour le reste. Au verset 3, prie que le Seigneur nous dise dans quelle voie nous devons marcher. Et c'est vraiment incroyable, parce que le reste dit, dis-nous de la part de Dieu, comment est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller. Mais lorsque Jérémie l'a dit, il lui dit, vous êtes séduit en me le demandant, parce qu'en fait, vous n'êtes pas intéressé. Vous demandez la parole, mais vous n'avez aucun intérêt dans votre cœur pour l'appliquer et lui obéir. C'est « N'allez pas en Égypte ». Oh non, on va aller en Égypte. Et on sait ce qui s'est passé après ça. Mais la pensée, c'est, ils demandent la parole, ils demandent la vérité, et ensuite ils la méprisent. Et c'est quelque chose qui est arrivé avec Jésus, avec nous, aujourd'hui. Beaucoup de gens, on connaît la parole de Dieu. Je rencontre des gens, ah oh, oui, je lis la Bible, oui, je sais ce que la Bible dit. Et vous savez quoi? Il n'y a aucun poids, aucune valeur. Elle ne les intéresse pas. Pour eux, c'est juste un peu d'information. Et ça, c'est ce message tout simple que je voulais partager. Mépriser la parole de Dieu, une façon de mépriser la parole de Dieu, c'est de la prendre comme juste quelque chose d'informatif. L'information, c'est quelque chose qui va satisfaire ma curiosité, quelque chose qui va me dire les faits du monde, de l'univers, de moi-même, de la psychologie humaine. C'est intéressant d'avoir un cours sur l'homme. C'est intéressant, bien sûr, mais je peux le prendre comme un fait. L'information, les faits, ne demandent pas un changement de cœur. Et beaucoup des gens apportent la parole de Dieu comme ça. Et moi aussi, je suis comme ça. Je lis la parole de Dieu, et c'est juste de l'information. Et voilà. Et c'est fini. Mais vous savez, c'est quelque chose d'effrayant, parce qu'en fait, en faisant ça, je méprise la parole de Dieu. Parce que ce n'est que de l'information, ce sont des faits. Mais j'aimerais que ça me parle, me défier, me serrer par la gorge en disant, hey, « Oh, oh, il faut que tu changes de vie. » Et je dis, « Ouais, je sais, ouais, j'avais déjà lu ça. Ouais, très bien, merci. » Et c'est une possibilité vraiment effrayante. Mais je pense que c'est incroyable de voir la différence que ça peut faire en nous. En 2 Timothée 4, 3, il nous parle des gens qui ont des oreilles qui les démangent pour entendre des oreilles qui les démangent pour écouter ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce que nous avons tant de fois, de l'information, information, information, mais rien de plus, rien de plus. La doctrine en catégorie peut être comme ça. Moi, je me souviens entendre Pasteur Stevens qui prêchait, et c'était incroyable. Et il disait, la doctrine en catégorie sans l'esprit, c'est rien. Mais juste, la grande différence. Est-ce que je veux des faits? Est-ce que je veux de l'information? Ou est-ce que je veux plus? Et quand Jésus est venu, il a dit en Jean 14, « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vie. » Ce n'est pas de l'information. Jésus n'est pas venu pour me donner de l'information, il est venu me donner la vérité. Et la parole de Dieu aussi me donne la vérité. Quelle est la vérité en rapport de la vérité? Quelle est la vérité par rapport à l'information? La vérité, c'est notre réponse pour un besoin d'absolu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous avons besoin d'absolu. Nos enfants, à un certain âge, ils nous disent toujours, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et vous donnez une réponse. Oui, d'accord, pourquoi? À une autre, pourquoi, 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 pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils vous rendent fous. Ou alors, ce que vous leur donnez, la réponse finale, Dieu, ils disent, OK, d'accord, c'est bien. Je comprends. Pourquoi ils ont besoin d'un standard et d'un absolu? L'information ne remplit pas notre cœur. La connaissance ne répond pas aux questions de nos cœurs. Mais la vérité, ça, c'est incroyable. Nous avons besoin d'un absolu. En Jérémie 29, 32, il nous a promis de nous trouver. Nous avons cette vérité. Ce n'est pas juste une information. Ce n'est pas juste une connaissance. Ça nous parle. Et ça nous demande un changement de vie. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est ce que nous voulons. Lorsqu'on entend du pupitre, on veut que nos vies soient changées. Et la vérité va faire cela en nous. Vous savez ce qui se passe? Et ça, c'est le dernier point. Si je reçois la vérité en Ésaïe 66, 2, je vais trembler à sa parole. Et je vais être contrit dans l'esprit et je vais dire, Seigneur, donne-moi la vérité. Et ce qui va se passer, c'est extraordinaire. Je vais avoir la sagesse. Je vais me soumettre à la vérité, je vais avoir la sagesse. C'est tellement extraordinaire. C'est ce dont nous parlent les proverbes. Mais si c'est juste de l'information, j'en aurai plein la tête, mais ma vie ne sera pas changée. C'est tellement extraordinaire de voir que Dieu puisse révéler sa parole et qu'il veut que nous sachions que nous le connaissions comme ça. Et pour terminer, et ce verset, verset 14, celui qui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies. Ça fait peur de prendre la parole de Dieu, mais ta parole va me réclamer quelque chose. J'ai besoin de marcher devant toi. Je veux vivre une vie différente. Merci Seigneur. Ou alors l'autre version, je vais m'égarer et je vais me rassasier de mes propres voies. Et ça, je pense que c'est la chose la plus effrayante du monde. Et c'est tellement super de recevoir cette parole de la parole de Dieu, cette vie de la parole de Dieu, et que le Seigneur nous donne toute chose, juste plus que tout, que l'information, plus que quelque chose qui va vraiment rassasier notre curiosité. Amen. Être captivé par mes filles qui chantent. Et Pasteur Moon, c'est super d'avoir des filles qui chantent. Pasteur Moon qui vient du Mexique, de Mexico au Mexique. On va juste s'étirer, lever les mains au Seigneur. Merci Seigneur, merci tellement, tellement, tellement pour ce moment, pour cette semaine. Merci pour ton corps qui est tellement incroyable, si beau Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, la grâce dans laquelle nous nous tenons Seigneur. Entre vous, merci pour tes pensées qu'elles descendent du ciel en Ésaïe 55. Comme la pluie coule, qu'on puisse avoir l'âme lavée par ton âme, par ton parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si jamais quelqu'un me dit que les enfants c'est un empêchement sur le champ missionnaire, c'est pas vrai du tout. Ma femme, elle doit être quelque part. Est-ce que tu peux lever la main, s'il te plaît, chérie? Et Mundo, Clara, mon pasteur, Donde están? Où est-ce que vous êtes? Ils étaient là, ils voulaient qu'ils parlent. I can't say I couldn't do anything with them, but I couldn't do much without them. There they are. Okay. Les voilà. Il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire s'ils n'étaient pas là. Very faithful. Ce sont des gens tellement fidèles, des guerriers en Christ. Et pour l'Église, on va regarder en Proverbe 26. C'est vraiment. J'aime l'esprit de pasteur Ken. C'est incroyable. Il y avait un gars qui, le fort haussé, c'était en 1840, ils sont partis aux confins de l'Amérique et ils ont marché. Après 2 jours d'hospitalité, et le commandant du fort a dit, qu'est-ce que vous faites? On veut, en haut de la rivière, on va aller vers l'ouest, et on ne sait pas exactement où on va. Et le commandant a dit, oh, ce sont des territoires hostiles. Il n'y a personne qui est allé là-bas. Et ils sont partis là-bas. Ça aurait pris plusieurs mois de remonter la rivière. Et ensuite, ils ont marché vers l'ouest. Et ils ont découvert le Wyoming, le parc du Yellowstone. Des années plus tard, ils sont rentrés avec de la fourrure. Et ils sont arrivés au fort. En 1814, et le monsieur s'appelait Daniel Boone, il avait 82 ans. C'était sa dernière chasse, Danny Boone. Et je pensais au mot ecclesia, l'église, qui veut signifie être appelé hors d'eux. Dieu nous a appelés hors d'eux. en Proverbes chapitre 26, au verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Imaginez ça. On va fermer les yeux, on voit un homme, il se couche d'un côté, il est confortable, et tout d'un coup, oh, il y a cette espèce de bruit, oh, et boum, il tombe de l'autre côté. L'homme paresseux qui ne veut pas bouger de son confort. Et à chaque fois qu'il fait un jour et on entend ce bruit. Ensuite, le paresseux plonge sa main dans le plat, plouf, et trouve pénible de la ramener à sa bouche. C'est trop dur, c'est dur, c'est difficile de ramener cette nourriture à la bouche. Et celui qui n'est pas si drôle que ça, c'est au verset 16, le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Le péché et toutes ses conséquences et tous ses corollaires, la chair, nous rendent paresseux. Pardon, mou. Et Dieu veut qu'on soit autrement. Et ça nous rend paresseux, comme cette personne molle. On peut l'interpréter de façon spirituelle. Le péché nous rend paresseux. Les pasteurs peuvent dire, oh là là, il y a plein de choses à faire. Pasteur Stevens disait, sois pas un gros mou. Et le péché nous vole de tant de choses. Et le péché, c'est pas le péché, c'est tous les péchés, la vie de la chair, la vie de la vieille nature pécheresse. Et j'aime cette histoire de Danny Boone parce que ça nous inspire. Dieu nous a appelés à sortir de nous, de notre zone de confort. Il nous a appelés à vivre une vie extraordinaire de foi, de marcher avec lui et d'être en communion avec lui. Voilà, c'est cela à quoi il nous a appelés. Et quand on pense, dès le départ, il a mis Adam et Ève dans le jardin. Mais ils n'étaient pas censés rester là, parce qu'au verset 20, il dit, c'est allez, et aussi remplissez la terre. Mais, et maintenant, partez et remplissez la terre. Ensuite, il dit quelque chose, et faites-le, allez et soyez des conquérants. Allez conquérir le monde. Et vous aurez domination sur toute créature. Ces poissons, et le chameau, les chameaux, la girafe, et aussi le serpent là-bas. Vous aurez une domination sur lui. Si vous marchez avec moi, que j'ai la vie pour vous, vous et moi, on va faire des choses extraordinaires ensemble. On sait que le péché est arrivé et quelles ont été les conséquences de ce péché. On s'est caché, ils se sont cachés et couverts de feuilles. Ils ont commencé à vivre dans la peur et toute cette mentalité de crainte, la vie de la chair, où on ne veut pas aller de l'avant mais on veut se cacher. Comme Caïn a suivi une tradition, qu'est-ce qu'il a fait? On va aller ensemble, et plus tard on voit Nimrod qui ramasse tous les gens qui ont peur dans une ville, des gens qui ne croient pas. Mais si on est tous ensemble, tous les peurons ensemble, on va construire une grande tour. Pardon. On va continuer. Mais tout ça était fondé sur la crainte. Parce que l'appel de Dieu, c'était aller et remplissez la terre. La terre est inhabitée. Elle était sauvage encore. Il y avait encore de vastes... il y avait des grandes, il y avait des ours, il y avait des forêts, des montagnes. Et Dieu, allez, allez explorer. Je suis avec vous, allez-y, allez-y. Au lieu d'être tous entrepreneurs et à faire des villes. Et bien sûr, Dieu est intervenu dans notre plan de peur. Il a mis des Français sur la terre. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Des Chinois ? Des Russes ? Toutes ces langues différentes. On va faire une petite tribu, tu parles la même langue que nous, parce que les autres, ils sont bizarres. On ne peut pas vivre ensemble dans une ville. Donc ils sont tout doucement hors de leur village. Mais alors que on peut vraiment partir, j'imagine certaines nuits qu'ils avaient quand ils partaient. Voici le groupe français. Ils ont leur petit feu et puis ils regardent en disant, oh là là, Seigneur, il y a quelque chose de bizarre. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment? Et peut-être le dirigeant qui va dire, je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'on doit juste prier. On va prier. Et j'imagine, ils s'agenouillent en disant, Seigneur, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut que tu nous aides. On a peur. Mais tu nous as dit auparavant que tu serais avec nous. Aide-nous. Et ils sont partis, ils sont allés de l'avant, ils ont établi des nations. Et Paul en parle en Acte 17. Il parle des Grecs, de tous les dieux qu'ils avaient. C'était des dieux basés sur la crainte. Vous savez qu'au Mexique, ils faisaient pleurer les enfants. Ils pensaient que les larmes des enfants puissent plaire au dieu de la pluie mexicain. Tout ça, c'est tout le système religieux est vraiment ancré dans la peur, dans la peur. Et Paul a vu les dieux d'Athènes et a trouvé la stèle du dieu inconnu. C'est le voilà. Donc il se lève, il se met debout sur l'aéroport et il dit, voilà, je vais vous parler de ce Dieu que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire qui il est. Et Dieu met toutes les races du monde dans toutes choses, dans ce désert, dans ces montagnes, dans ces craintes. Et Dieu l'a fait pour un but. Qu'est-ce qu'il a dit ? Afin que peut-être il puisse chercher Dieu et que peut-être il puisse le trouver. Vous voyez ? On a été appelés hors d'eux et l'Église est appelée hors d'eux. Dieu nous a appelés à être en dehors d'eux. La crainte, de la culpabilité, de nos mentalités, en dehors de notre vie de chair, en 2 Timothée 1, 7, il nous appelle à sa puissance, son amour, moi j'appelle ça l'autorité. Il nous a appelé à l'autorité de son royaume. Il nous appelle au mystère de Dieu. Lorsqu'on sort de nous-mêmes, lorsqu'on sort de notre zone de confort, lorsqu'on ose vivre par la foi, vivre par les pensées de Dieu, et la foi qui prend les les pensées de Dieu et de vivre par les pensées de Dieu. Ce n'est pas une perspective humaine, mais une perspective divine et de voir toute chose de la façon dont lui le voit. Il n'y aura plus de crainte. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait en 1 Jean. Et il nous appelle à vivre la vie de la croix. On n'est pas besoin d'être familier. C'est une des choses des pires. Les pasteurs Stevens en parlait beaucoup. C'est horrible. Vous savez, c'est quoi l'essence de la familiarité? C'est la peur. La peur de l'inconnu. C'est prendre un vrai pas de foi et d'arrêter de vivre dans la zone de confort. Et la vie devient nulle, ennuyeuse. Mais on s'y habitue parce qu'on a peur de prendre un pas de foi et d'obéir véritablement Dieu et de faire confiance au Saint-Esprit en nous et pas dans la chair. En Hébreu 13:3, vous êtes devenu très familier avec lui. Vous êtes trop familier. Maintenant, si vous voulez me trouver, vous allez où? Je serai en dehors. En dehors du camp. Et si vous voulez vraiment me trouver, il va falloir que vous traversiez le désert et que vous me trouviez là-bas. C'est quand même quelque chose d'étrange que Dieu a fait, qu'il voulait avoir communion avec eux et être avec eux, mais il s'est séparé d'eux de façon à ce qu'ils le recherchent et qu'en y allant, ils puissent le trouver et le découvrir. Et très peu sont allés. Ils sont restés à la porte de la tente pour l'adorer de loin. Je crois que beaucoup d'églises sont comme ça dans ces derniers temps. Et on vit des moments incroyables qui peut remplir notre cœur de troubles. Ça peut rentrer sous notre peau, comme a dit Pasteur Chaleur. On peut être tenté d'abandonner toute chose, de vivre dans notre petitesse, d'être collé dans notre petitesse, dans notre incrédulité, dans notre confort. Vous savez que le paresseux met la main dans le plat, mais ne le remène pas à la bouche. Mais prendre la parole de Dieu et la mélanger complètement à notre vie de façon pratique, aussi souvent que Dieu nous a promis de le faire. Juste une histoire. Nous nous tenons ici. Et je sais que Pasteur Chaleur aime les histoires comme ça. Grant, Colonel Grant. C'était Ulysse Grant, le colonel. Il avait une grande bataille où il a perdu sa pire des batailles. Il a été vraiment piétiné. Il a perdu des milliers d'hommes. Et évidemment, ça, tous les gens parlent de ça. Et Abraham Lincoln l'a dit, il faut que je prie là-dedans. On imagine les crampes à l'estomac. Et le message arrive du général Grant. Il dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai encore un général qui va perdre? Il va prendre sa retraite. Il a peur. Est-ce qu'il va reculer encore? Les messagers arrivent. Il lui donne cette note. Il l'ouvre. Et Ulysse Grant lui dit, président, on a eu une mauvaise journée, mais je vais te le dire. Mais on ne reculera pas. Et vous savez que Lincoln a pleuré. Il est allé voir, il a embrassé le messager sur le front. C'est ce que Dieu aime faire avec nous. Allez, va, Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Ne vis pas en crainte, ne vis pas dans les circonstances, ne vis pas dans tes limites. J'ai des grandes, grandes, grandes choses. J'ai l'œuvre accomplie pour toi. C'est pour toi. Marche dans l'esprit. Si tu vas en dehors du camp, et pour terminer, en Romains 8, 12, et c'est une version que j'aime beaucoup. Écoutez. Donc, ne voyez-vous pas que nous n'avons cette... Il n'y a rien à faire pour nous dans l'avenir. Rien du tout. Prenez votre nouvel nom. Il y a des choses à faire. Il y a des endroits à vivre, n'est-ce pas? Dans l'Esprit de Dieu. Nous nous tenons dans l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Si vous voulez bien vous lever, vous embrasser les uns les autres. Si vous êtes très proche, vous pouvez peut-être les embrasser sur le front, uniquement si vous avez reçu la permission de le faire, bien entendu. J'ai un. Vous avez laissé un appareil photo. Peut-être que Pasteur John Post a peut-être récupéré une caméra. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez vos mains vers le Seigneur et on va terminer cette session. Il va y avoir le lunch wrap et cet après-midi, des sessions cet après-midi et aussi la nuit d'émission ce soir. Vous avez les vraies données, la véritable vérité. Et des gens qui vont venir du monde entier. Seigneur, merci pour cette matinée, la vie que tu nous as donnée, les messages qui sont derrière ces messages. On te remercie tellement, Seigneur, et on te demande de continuer à nous guider dans la communion de la vie dans laquelle tu nous appelles. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci d'être venu. On sera là tout à l'heure. Et aussi samedi et dimanche. À bientôt.